France Culture, sans oser le demander, Géraldine Mosna-Savoie.
D'abord, l'impression de tomber sur une image comme une autre, celle d'un petit chien mignon, d'une petite boule de poils qui vous fait pousser un « oh » attendri. Puis la sensation que quelque chose se passe, est-ce dans la pose de l'animal ou peut-être dans son regard. En tout cas, l'a priori du tableau animalier un peu kitsch disparaît, car vous ne voyez plus alors un toutou comme un autre, vous regardez ce toutou, celui de la peintre Rosa Bonheur. Née il y a 200 ans, oubliée à cause de son genre pictural ou de son genre tout court, comment a-t-elle pourtant renouvelé de son vivant l'approche du vivant ?
Pourquoi collectionnez-vous les sculptures de Rosa Bonheur ?
Parce que j'aime beaucoup Rosa Bonheur. C'est une très très grande artiste. C'est très très beau, c'est très très bien fait, c'est étonnant.
C'est très bien fait. Vous venez de dire un mot qui me semble très important.
Mais il faut le faire.
Il faut le faire.
Mais oui, pourquoi on a critiqué Rosa Bonheur ? Je ne sais pas pourquoi. C'est ce qu'il y a d'embêtant, vous voyez, aujourd'hui, c'est qu'on peut le faire. C'est ça l'embêtement. Parce que dans le temps, il fallait le faire. Aujourd'hui, on peut le faire.
Bonjour Leïla Jarboué.
Bonjour.
Vous êtes conservatrice en chef au musée d'Orsay et co-commissaire de l'exposition Rosa Bonheur qui, après Bordeaux, débute aujourd'hui au musée d'Orsay jusqu'au 15 janvier 2023. Merci d'être ici aujourd'hui. J'imagine que vous avez un programme chargé puisque l'exposition ouvre aujourd'hui. Alors cette exposition, elle ouvre parce que c'est le bicentenaire de Rosa Bonheur. Elle est née en 1822. Elle est morte en 1899. Depuis 1899, Rosa Bonheur a un petit peu disparu, il faut le dire quand même, des radars. Que s'est-il passé en fait entre 1899 et aujourd'hui pour que cette exposition soit un petit peu la grande première ?
Alors, effectivement, Rosa Bonheur a un petit peu sombré dans l'oubli. Elle a été redécouverte par les féministes états-uniennes à partir des années 1970, plutôt par le biais de son genre et par le biais de l'étude de la femme artiste. Et maintenant, effectivement, il est temps qu'on s'intéresse à son œuvre, à ses tableaux en eux-mêmes. Alors, Rosa Bonheur est un peu dans un purgatoire pour diverses raisons. Vous l'avez dit, c'est une femme. Et on voit que les rétrospectives consacrées des femmes artistes sont nombreuses cette année, mais c'est finalement un phénomène très, très récent. Donc, l'histoire de l'art est quand même encore très majoritairement écrite au masculin. Donc, déjà ça. Le genre animalier, vous l'avez dit, donc aussi. Donc, un genre qui a été longtemps déprécié, considéré comme secondaire par rapport à des genres beaucoup plus valorisés. Et puis Rosa Bonheur a eu le malheur de très très bien vivre de son art. Et ça aussi, ça lui a été un peu reproché finalement, puisqu'il y a eu ce mythe, cette histoire des avant-gardes avec la valorisation des artistes maudits. Donc un art commercial était un peu douteux.
Le fait qu'elle soit connue, qu'elle ait pu vivre de son argent, l'a disqualifiée presque.
Un petit peu, c'est le cas d'ailleurs de beaucoup d'artistes académiques, entre guillemets, comme par exemple Jérôme, Jean-Léon Jérôme, qui a été finalement redécouvert assez récemment. Il y a une exposition au musée d'Orsay il y a quelques années, mais tous ces artistes qui gagnaient beaucoup d'argent avec leur art avaient un petit côté commercial, un peu suspect aussi, par rapport à des artistes comme Van Gogh, Gauguin. Et puis en plus, Rosa Bonheur, il se trouve que ses œuvres originales sont d'ailleurs toujours peu visibles en France et elle était plus connue pour les reproductions de ses œuvres d'art finalement que pour les originaux qui étaient vendus dans des collections particulières, la peinture à peine sèche.
Alors ça, c'est une chose que vous m'avez expliqué juste avant l'antenne, Leïla Jarboué, c'est que il n'y a pas encore de catalogue des œuvres de Rosa Bonheur. C'est une peintre qui a beaucoup, beaucoup produit, mais ses œuvres, en fait, sont dispersées à travers différents collectionneurs. Par exemple, on a entendu, là, en ouverture, la voix du collectionneur Bernard Buffet qui dit qu'il adore Rosa Bonheur et qui dit, bon, ben voilà, par contre, on la critique aujourd'hui, mais moi, je trouve que c'est très bien ce qu'elle fait. Et ses œuvres ont donc été dispersées comme ça à travers les musées et les collections. Et on n'arrive pas à avoir, ou on n'arrive pas encore à le faire, ou on ne l'a pas encore fait, ce catalogue raisonné de ses œuvres.
Oui, c'est assez compliqué, d'autant plus qu'il y a ses œuvres achevées qui étaient vendues au fait de son vivant. Et puis il y a toutes ces études il y a plus de 4000 études au fait qui ont été vendues d'un coup en 1900, en fait, après sa mort. La galerie Georges Petit, ça a été dispersé sa légataire. Anna Klumke qui a pas voulu avoir un procès avec la famille et donc qui a vendu toutes les esquisses. Et là, en ce moment, au château de Rosa Bonheur, à Bitomri, l'équipe est en train d'étudier, au fait, au moyen de plaques de verre qui ont été retrouvées au château, tout ce catalogue de ventes, donc d'identifier les 4000 études. Donc c'est un nombre assez impressionnant. Et puis, en plus, le fait que toutes ces études aient été vendues d'un coup, ça aussi participer à la chute de la cote de l'artiste.
Et alors, où sont ces études perdues ou chez des
particuliers ? Elles sont dispersées aux quatre coins du monde. Et puis en plus, autre chose qui est aussi un peu compliquée avec Rosa Bonheur, c'est qu'elle travaillait en famille.
Et donc avec ses frères et sœurs.
Voilà, et son amie compagne Nathalie Mikas. Et en fait, ça lui arrivait assez souvent de faire des répliques de ses propres tableaux avec ses frères et sœurs. Donc en plus, voilà, par exemple, le labourage Nivernais, il y a eu une réplique par son frère, validée par Rosa Bonheur. Voilà, c'est le cas pour beaucoup de tableaux. Donc en plus, il faut démêler les originaux de ceux des copies, des répliques faites sous la supervision de l'artiste, des œuvres faites à deux mains. Enfin, c'est vraiment très compliqué.
Donc c'est le début là, et cette exposition marque ce lancement, c'est le début d'un énorme travail en fait de redécouverte de l'œuvre de Rosa Bonheur.
Oui, effectivement, beaucoup d'expositions sont l'aboutissement de nombreuses années de recherche. Et là, c'est vraiment l'inverse en France. Cette exposition se veut vraiment comme un début, une première pierre pour donner envie à des étudiantes et étudiants de travailler sur Rosa Bonheur. Et d'ailleurs, on a déjà réussi ça parce que deux étudiantes là veulent débuter une thèse en histoire de l'art sur Rosa Bonheur, donc les premières, puisque pour le moment
il y en a jamais eu.
Et ben il y a une thèse en France sur Rosa Bonheur, mais c'est une thèse vétérinaire.
Voilà. Ah bon,
mais qui est très intéressante. Hein. D'ailleurs, l'autrice participe au catalogue.
Et alors, qu'est-ce qui est dit dans cette thèse
C'est une thèse qui analyse les relations entre Rosa Bonheur et son vétérinaire, le commandant Rousseau. Mm-hmm. La correspondance qu'elle a eue avec lui montre comment elle était assez pionnière dans le soin qu'elle portait à ses animaux. Voilà, qui étudie aussi vraiment son rapport aux plus de 300 animaux qu'elle avait, qui vivaient avec elle. Mais c'est très, très intéressant.
Alors, Rosa Bonheur, on l'a dit, elle est née en 1822, elle a des frères et sœurs, c'est l'aînée d'une fratrie de 4 enfants, c'est ça. Elle avait un père qui était artiste, en fait, professeur de dessin, un Saint-Simonien convaincu, hein, qui est d'ailleurs parti un petit peu, c'est un moment, dans une branche un petit peu marginale du Saint-Simonisme. Sa mère est décédée quand elle avait 9 ans.
Oui, quand elle avait 11 ans.
Quand elle avait 11 ans, donc elle a été élevée par son père. Comment en est-elle venue à se dire qu'elle allait devenir peintre ?
Alors, à cette époque, c'était très difficile pour une femme, même d'émettre le désir de vouloir être artiste si on n'était pas baignée dans un milieu un peu artiste, parce que voilà, c'était quasiment impossible. Donc, Rosa Bonheur, quand même, était avec son père artiste, ça lui a facilité sa vocation. Et sa mère aussi était un petit peu artiste. En fait, elle avait rencontré son père. D'ailleurs, ses deux parents s'étaient rencontrés parce que le père de Rosa Bonheur donnait des cours de dessin à la mère de Rosa Bonheur. D'accord. La mère de Rosa Bonheur était musicienne. Elle a eu aussi l'idée d'apprendre à lire et à écrire à sa fille en lui imaginant un alphabet où elle avait associé des animaux à chaque lettre de l'alphabet. Donc, elle avait aussi un côté créatrice. Donc, Rosa Bonheur baignait dans un milieu propice, parce que pour les filles, le déterminisme était important à l'époque, très important. Et elle a une vocation précoce, et son amour pour les animaux et son amour pour le dessin sont deux choses qui semblent indissociables en fait, dans la vie de Rosa Bonheur.
Donc ce qui veut dire que quand Rosa Bonheur décide d'être peintre, c'est déjà parce qu'en fait elle naît dans une famille d'artistes et aussi d'un père qui est quand même convaincu qu'il y a une égalité des sexes en vertu du Saint-Simonisme. Mais quand elle décide ça, elle décide tout de suite de choisir la peinture et le genre animalier. Et ce genre, pourquoi elle le choisit? Est-ce que ça vient d'un amour des animaux ou est-ce que ça vient au contraire d'une mode peut-être de l'époque?
Alors je pense que ça vient des deux, parce qu'effectivement, enfin, elle dit que elle aimait énormément les animaux depuis toute petite. Elle trouvait vraiment réconfort dans cette société d'être sensible et peut-être même plus sensible que les humains. Mais elle était aussi très pragmatique puisqu'elle a fait l'expérience de la pauvreté. Donc son père était saint-simonien, mais du coup il a un peu abandonné, même complètement abandonné sa famille puisqu'en fait il était au couvent de Ménilmontant. Et il voyait sa famille qu'une fois par semaine. Il gagnait pas d'argent, enfin parce que voilà, c'est très difficile de vivre de sa peinture, surtout dans le contexte post, enfin des années 1830, de la Révolution, du choléra. Enfin, la famille était très pauvre et c'est la mère qui s'usait à la tâche pour faire vivre ses enfants, ses quatre petits enfants. Et en fait, elle est morte d'épuisement puisque la journée, elle donnait des leçons de musique, le soir, elle faisait de la couture. Donc morte d'épuisement à l'âge de 36 ans. Pour Rosa Bonheur, ça a été un traumatisme très profond, évidemment. En plus, sa mère a été enterrée dans une fosse commune. Et elle a perdu tous les papiers enfin, qui auraient pu donner un héritage à sa famille. Enfin bon, bref. Donc Rosa Bonheur a fait cette expérience vraiment terrible de la dure réalité concrète des choses. Et donc, elle s'est jurée de venger sa mère en devenant artiste, mais aussi en gagnant très bien sa vie par son art. Et donc, le choix de l'art animalier, c'était aussi un choix pragmatique dans la mesure où c'était un art, effectivement, qui se développait, qui avait son public, et puis qui était quand même à la portée d'une femme, puisque faire de la peinture d'histoire avec des nus, donc basé sur le nu humain, c'était impossible pour les femmes à l'époque. Puisque le nu s'étudiait principalement à l'école des Beaux-Arts, qui n'était pas ouvert
aux femmes.
Pour aller dans des académies privées étudier le nu, ben, il fallait être riche. Donc les femmes à l'époque, en fait, pour se former à l'art, les femmes pauvres, c'était soit l'école gratuite de dessin pour jeunes filles, où Rosa Bonheur d'ailleurs a enseigné, et dont elle a été directrice, soit avoir la chance d'être dans une famille d'artistes comme Rosa Bonheur, qui a été formée par son père. Mais elle a dû vraiment batailler parce qu'en fait, au début, il voulait la cantonner à des tâches.
Vous voulez qu'elle devienne couturière,
oui,
hein, c'est ça?
Oui, et puis elle a commencé à faire des retouches de vue, de photographie, enfin des travaux très délicats et minutieux. Et puis, comme elle avait beaucoup de volonté, il a accepté de la prendre sous son aile et elle a complété son éducation qu'elle avait avec son père en allant étudier au Louvre, puisque le Louvre, là, était accessible à tous.
Donc, elle s'est presque formée d'elle-même. Alors, il y a eu son père qui était prof de dessin, quand même, mais ça veut dire que c'est elle qui a aussi, qui s'est entêtée et qui est allée au Louvre pour faire des copies des grandes œuvres, c'est ça?
Oui, et puis il y avait un modèle à l'époque qui était important, c'était Elisabeth Vigée-Lebrun, dont les mémoires venaient d'être publiées, et donc qui était un modèle aussi pour les femmes de réussite. Et donc le père de Rosa Bonheur, finalement, voyant sa fille si déterminée, il lui a dit qu'il aimerait qu'elle surpasse Vigée-Lebrun, qu'elle devienne en quelque sorte une sorte de Vigée-Lebrun des animaux.
Donc lui-même avait quand même beaucoup d'ambition finalement pour sa fille, dès lors qu'il a accepté qu'elle devienne peintre.
Oui, en quelque sorte, elle le vengeait elle aussi.
Alors elle a très vite eu du succès, hein, on peut le dire. Dès les années 40, elle expose des scènes d'animaux, elle expose dans les salons, elle reçoit des médailles. En 1848, elle reçoit la médaille d'or avec son tableau « Bœuf et taureau de la race du Cantal ». Donc très vite, elle a été identifiée comme la peintre du genre animalier. Mais est-ce que son genre, à ce moment-là, n'a pas été un rebutoir? C'est-à-dire que est-ce qu'on l'a célébré en tant que peintre du genre animalier ou est-ce qu'au contraire on l'a célébrée un petit peu comme de manière curieuse, c'est-à-dire une femme qui peint?
Alors elle a été un petit peu cantonnée à la peinture de bovins, donc c'était le genre animalier mais vraiment de bovins. D'ailleurs quand elle a voulu peindre autre chose, les chevaux, les étalons, là c'est devenu plus compliqué. Mais en ce qui concernait les bovins, c'était un sujet à la mode et qui était très lié au patriotisme, à l'exaltation aussi de la République, voilà, pendant la Deuxième République. Donc c'était pas vraiment lié à son genre féminin.
C'est pas ça qui a attiré la curiosité?
Là, c'était plutôt pas encore, parce que là, c'était des tableaux encore, de taille relativement pas modeste, mais enfin, voilà, c'était pas des coups d'éclat comme elle allait faire quelques années après, avec un sujet vraiment associé aux hommes pour le coup. Donc là, c'était plutôt le fait que c'était des sujets vraiment en lien avec l'esprit du temps, avec la valorisation des campagnes françaises aussi au moment où l'industrialisation commençait à se développer, et puis dans un contexte de concurrence aussi entre nations avec le Royaume-Uni.
Donc on l'a célébrée plutôt comme une peintre presque patriotique, c'est ça ?
Bah, il y avait un peu ce côté aussi de valorisation des terroirs, des particularismes de nos régions, un peu en lien d'ailleurs avec George Sand, qui, enfin, dont les livres, les romans champêtres étaient contemporains en fait de ces tableaux de Rosa Bonheur.
Le portrait de Rosa Bonheur à 26 ans est celui d'une jeune femme déjà célèbre. Elle a obtenu la médaille d'or du salon de 1848. Bien mieux, le jury lui commande au nom de l'État une scène de labourage parce qu'elle excelle dans ce genre. Mais aucun des jurés du salon ne se doute que la toile à laquelle le peintre s'attaque immédiatement va faire accourir les foules au musée du Luxembourg pendant plus d'un demi-siècle. Le labourage nivernais est aujourd'hui au château de Fontainebleau. Mais le petit musée Rosa Bonheur, où il est accroché, se situe en marge du circuit de la visite des appartements. Ce labourage nivernais résume toute l'œuvre de Rosa Bonheur et aussi les appréciations contradictoires qu'on a portées sur elle de son vivant, autant qu'après sa mort. Certains de ses contemporains ont considéré le peintre comme un disciple de Jean-Jacques Rousseau, cherchant refuge dans la nature, un écologiste avant la lettre. Mais les jeunes artistes qui le redécouvriront aujourd'hui le trouveront aussi très moderne, car sa technique l'apparente aux expériences des hyper-réalistes américains. Rosa Bonheur avait tenu à travailler dans le pays de George Sand, dont elle avait aimé les livres, et les paysages de la mare au diable, en d'étranges correspondances avec ceux du peintre.
Entendu dans cet extrait d'un documentaire qui date de 1980, qui avait été diffusé à l'époque sur TF1. C'est un documentaire d'Aline Tagvorian. On a entendu, hein, vous avez cité George Sand, et on vient d'entendre effectivement le parallèle, le rapprochement de Rosa Bonheur avec George Sand, mais aussi avec Rousseau. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce tableau, le labourage nivernais, qui date de 1849, donc un an après sa médaille d'or au salon, est vraiment, contient véritablement toute l'essence de la peinture de Rosa Bonheur.
Alors d'abord, je voulais vous remercier pour cette archive. C'est vraiment très intéressant aussi. Il parle d'écoféminisme, donc on voit que c'est vraiment quelque chose de profond, parce que ça fait quand même plus de 40 ans, donc c'est...
C'est assez frappant.
Oui, c'est très frappant, enfin, vraiment très intéressant. En fait, dans l'exposition, on a voulu s'éloigner justement de cette image. Donc il y a une section qui s'appelle « Les travailleurs de la terre » autour du labourage nivernais. Mais vraiment, on voulait montrer avec ma collègue Sandra Buratti-Hassan, co-commissaire de l'exposition, toute la variété des animaux et des univers représentés par Rosa Bonheur. Donc ça serait vraiment très réducteur de limiter Rosa Bonheur à la peinture de la ruralité.
Ou de la réduire seulement à l'approche de Rousseau tel qu'on l'a entendu, de Jean-Jacques Rousseau comme la nature refuge, ou celle de George Sand.
Mais après, je pense qu'il faudrait vraiment creuser les liens de Rosa Bonheur avec le XVIIIe siècle. Là, c'est vraiment une piste, appel aux étudiants, parce qu'elle a vraiment énormément de liens avec Rousseau aussi, avec Bernardin de Saint-Pierre. Enfin, et il y a un côté même dans sa pratique artistique, elle a beaucoup aussi, enfin, elle a aussi pratiqué le pastel, par exemple. Il y a vraiment un lien très fort avec ce siècle. Et d'ailleurs, elle commence avec des pastorales, avec des tableaux, enfin des scènes, des bergeries. Enfin, c'est vraiment, on sent aussi l'influence de la peinture du XVIIIe siècle qu'elle a vue aussi au Louvre, pas seulement la peinture flamande du XVIIe. Mais plus qu'une peintre de la ruralité, c'est vraiment une peintre des animaux de cette ruralité. Parce que la ruralité, chez Rosa Bonheur, ce sont les animaux beaucoup plus que les paysans. Et c'est vraiment ce qui fait sa spécificité, parce que elle leur accorde une place qui d'habitude est plutôt dévolue aux paysans. Dans les scènes de labourage, le laboureur est une figure vraiment importante, souvent avec un côté moral. C'est un sujet à la fois simple mais universelle. Voilà, cette personne qui, ce travailleur qui creuse les sillons, dont sort le pain qui nourrit l'humanité tout entière, pour reprendre l'expression de Rosa Bonheur. Elle, en fait, elle évince le paysan. Enfin, ils sont complètement, ils sont flous, au fait, dans le labourage nivernais. Ils sont derrière les animaux.
Oui, on peut peut-être décrire justement ce tableau, effectivement, Leïla Jarboué, parce que c'est un tableau qui est véritablement, qui détonne, parce que les paysans, en fait, sont complètement presque floutés, en fait, dans leur visage. En revanche, les bœufs sont très expressifs. C'est vraiment eux les sujets, en fait, de cette peinture.
Oui, effectivement. Et puis alors, donc, elle représente plusieurs races de bœufs en plus. Donc, il y a une attention très précise à la spécificité de ces races qu'elle a étudiées. Peut-être, on peut dire que c'est un tableau qu'elle a aussi préparé sur le terrain. Hein. Elle a vraiment fait un travail de documentariste. Bon, là encore, enfin, c'est grâce aussi à son réseau, parce que c'était pas facile à l'époque. Donc, c'était son père qui avait un ami qui avait une propriété dans le Nivernais où elle a pu séjourner et observer de près les animaux. Et d'ailleurs, ça a un intérêt encore aujourd'hui pour les vétérinaires, les scientifiques, parce qu'ils peuvent identifier des races d'animaux qui ont disparu aujourd'hui, tant les œuvres de Rosa Bonheur sont précises. Donc on voit plusieurs paires de bœufs dans ce tableau qui avancent lentement dans une grande oblique.
Je vous montre le tableau de loin.
Parce que je l'ai dans la tête.
Voilà, mais de manière, je vous montre comme ça, vous pouvez précis. Le voir. Je suis un petit peu loin de vous, mais vous pouvez quand même le décrire.
Alors, ce qui est très frappant, c'est que ces animaux, donc, on a vraiment cette impression de travelling, enfin, vraiment qu'ils avancent. Et dans un grand format panoramique, c'est un tableau vraiment de très grande dimension. Et avec, dont la longueur fait presque le double de la hauteur. Les animaux sont au centre du tableau. Et au centre exact, quasiment, on a l'œil. Oui. De ce charolais nivernais qui interpelle le spectateur du tableau, donc qui nous appelle. Enfin, c'est assez rare cette confrontation directe comme ça. Elle donne vraiment un langage à l'animal. Et puis une autre spécificité de ce tableau, c'est l'importance aussi donnée à la terre, qui est vraiment traitée avec beaucoup de soin et d'amour. Elle traite chaque motte avec énormément de méticulosité. Elle travaille les petits brins d'herbe.
On voit les ombres aussi. On a l'impression en fait qu'on peut y marcher presque.
Oui, c'est vraiment une artiste très terrienne d'ailleurs. Elle a presque toujours les animaux vraiment ancrés dans la terre. Elle a quasiment pas peint d'oiseaux. Et enfin, le seul
qu'on connaît,
en fait, il chute. Donc,
ah oui, donc il va vers la terre justement.
Voilà. Et aussi une autre spécificité, c'est la lumière. Donc il y a un tiers du tableau qui est occupé par un très grand ciel bleu. Extrêmement lumineux. Donc il y a un côté assez harmonieux dans ce tableau. C'est une composition très classique, hein, avec composée en trois temps, quoi, le ciel, la terre et les bœufs au milieu. Voilà, donc c'est vraiment recomposé en atelier pour transcrire une atmosphère d'harmonie en fait, entre les animaux et leur terre.
Vous avez parlé de l'expressivité, notamment en fait de ce bœuf dont le regard en fait est tourné vers le spectateur. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que Rosa Bonheur se situe du côté presque du sentimentalisme des animaux? Est-ce qu'elle essaye de faire parler en fait ces animaux, ou au contraire est-ce qu'elle elle cherche seulement en fait à restituer une forme de réalisme?
Alors, je pense qu'elle cherche vraiment à les faire parler, parce que c'est un choix qu'on retrouve dans beaucoup de ses tableaux, de placer comme ça un œil, un animal qui nous regarde dans le tableau et souvent au centre. Donc ça, c'est vraiment un parti pris d'insister sur leur regard. Alors, il faudrait vraiment être spécialiste d'éthologie. Donc là, c'est aussi des pistes pour étudier Rosa Bonheur mieux, mais apparemment aussi la bave là de ce bœuf au centre, c'est un indice de stress thermique. Enfin, j'ai entendu des spécialistes.
Oui.
Elle retranscrit le langage réel, en fait, pour créer une connexion.
Donc c'est un genre réaliste, c'est ça, un courant réaliste auquel elle appartient.
Ah oui, c'est très réaliste, mais ce n'est pas sentimentaliste, justement, du coup, parce que le sentimentalisme, souvent, vise à placer des sentiments humains sur l'animal.
Donc, problème d'anthropomorphisme et de projeter, justement, des émotions humaines sur un animal qu'on instrumentalise, finalement.
Oui, et chez Rosa Bonheur, il n'y a pas du tout ça. Alors, évidemment, elle peut pas elle est humaine, elle, donc elle peut pas, elle regarde les animaux en étranger, elle pourra pas avoir le regard de l'animal sur l'animal, mais elle essaie vraiment d'être, finalement, assez neutre, assez, scientifique, en fait. Elle les étudie d'ailleurs de manière très scientifique. Hein. Elle, son père avait été proche de Geoffroy Saint-Hilaire, avait travaillé pour des planches. Et elle-même, en fait, vraiment vise à étudier l'anatomie, la physiologie, la myologie, donc l'étude des muscles. Enfin, il y a vraiment un côté scientifique dans son approche.
Est-ce que on peut aller jusqu'à dire que il y a presque trop de neutralité dans les tableaux de Rosa Bonheur, que finalement ce sont de parfaits documents, de parfaits témoignages sur les animaux, mais en termes de créativité ou d'apport esthétique, il reste peu.
Alors là, ce que vous dites, ça fait penser à une remarque célèbre de Cézanne sur le labourage névernais, où il disait, dont il disait, c'est horriblement ressemblant. Mais justement.
Oui, c'est une bonne question, la ressemblance. Est-ce que c'est juste une pâle imitation ou une très belle imitation, au contraire, de la nature?
Comme dirait ma collègue Sandra Buratti, qui avait une jolie expression, ça voudrait dire que c'est le degré zéro de la peinture pour atteindre le degré maximal de la relation. Et pour expliquer cette expression, c'est-à-dire que Rosa Bonheur, elle veut tellement être fidèle à l'animal, elle le respecte tellement, en fait, que elle efface son ego, elle efface son style propre, son tempérament, elle l'efface pour rester le plus objective, face à la beauté de l'animal en soi, en fait. Donc vraiment, c'est une attitude éthique chez Rosa Bonheur. C'est vraiment lié à son respect pour les animaux. Elle en parle dans sa biographie, en fait, écrite par Anna Klumke sous sa supervision. Et elle explique justement que c'est vraiment un travail sur soi, en fait, de renoncer à s'exalter et pour rester fidèle, restituer le plus précisément possible l'individualité de chaque animal au sein de l'espèce.
Alors là, je vous présente un autre tableau, Leïla Jarboué. Pour les auditeurs et auditrices, il faut le décrire. Alors d'abord, il s'agit du marché aux chevaux, qui est un aussi des tableaux les plus connus de Rosa Bonheur. Il date de 1850-1855 et celui-ci lui a valu une renommée internationale. Et je le présente à la suite du labourage nivernais, parce que c'est aussi un tableau de très grande ampleur où on voit tout un ensemble d'animaux, un petit peu comme le labourage nivernais. C'est pas encore les portraits d'animaux dont on va parler tout à l'heure.
Oui, alors le marché aux chevaux, alors c'est un tableau intéressant à plusieurs titres. Alors déjà, d'un point de vue succès de Rosa Bonheur, parce que c'est vraiment le tableau qui a lancé sa carrière internationale. Le labourage névernais, c'est sa carrière en France. Et les chevaux, donc le marché aux chevaux, sa carrière internationale. En France, on voulait un peu l'enfermer dans la peinture rurale. Donc, en fait, ce tableau n'a pas été acquis en France, n'a pas été acheté par l'État et n'a pas été acheté non plus par la ville de Bordeaux, auquel elle le cédait pourtant un prix vraiment bas, pour la somme de 12 000 francs. Et finalement, elle l'a cédé pour la somme de 40 000 francs au marchand belge Ernest Gambard, qui est devenu son grand marchand, qui a beaucoup participé au succès de Rosa Bonheur.
Et à l'international, justement.
Voilà, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et donc, il a organisé, comme le tableau ne s'est pas vendu en France, lui l'a acheté. Et il a fait tourner, donc elle est vraiment devenue très célèbre. Et donc il a été décliné, le tableau, en estampes, de différentes sortes. Et aussi, il y a une réplique qui a été réalisée par Rosa Bonheur avec son amie Nathalie Micas en vue de la gravure. Une très belle réplique qui est conservée aujourd'hui à la National Gallery de Londres, du vivant de Rosa Bonheur, en fait, et qui est présentée dans l'exposition au musée d'Orsay. Donc c'est un tableau vraiment qui a lancé la carrière de Rosa Bonheur. Alors autre chose qui est très intéressante dans ce tableau, évidemment, peut-être parler plus du tableau, c'est le sujet et puis la manière dont Rosa Bonheur l'a réalisé. Donc c'est le fruit d'un très long travail qu'il a occupé pendant plusieurs mois, où elle a fréquenté au fait le marché aux chevaux de Paris, qui était situé au boulevard de l'Hôpital. Et donc elle fréquentait les maquignons et elle était très intéressée par les percherons, ces chevaux de trait très puissants et pas forcément conformes à l'esthétique du cheval tel qu'on le voit dans les tableaux de bataille. Et c'est un univers très masculin. Donc Rosa Bonheur, pour pouvoir y travailler en paix et pour pouvoir y travailler même de manière pratique, elle a demandé cette fameuse autorisation de travestissement à la préfecture.
Donc le droit de porter un pantalon pour se rendre sur le marché aux chevaux.
Donc à partir de 1853, donc Rosa Bonheur porte le pantalon pour travailler. Mais tous les 6 mois, elle doit renouveler cette
autorisation.
Voilà. Donc c'est là aussi qu'est née un peu l'image de l'artiste. En pantalon, qui brave toutes les limitations en fait imposées à son genre. Et alors donc c'est un tableau aussi, très mouvementé où les chevaux sont dans un mouvement tournoyant, une sorte de frise tournoyante, qui montre l'ambition de l'artiste de se comparer au fait, de se mesurer au grand relief du Parthénon et au grand tableau de la croix. Au tableau de Géricault, et les dimensions du tableau sont gigantesques, elle fait plus de 5 mètres. Alors dans l'exposition, on présente une esquisse inédite sur toile, qui a été découverte roulée dans le château de Rosa Bonheur, par l'équipe du château de Rosa Bonheur, pendant le confinement.
Parce que celui-ci, il n'est pas dans l'exposition,
alors celui
le marché aux chevaux, il est à New York, c'est
celui
ça ?
Celui du Metropolitan Museum n'est pas dans l'exposition.
Donc vous n'avez pas pu le rapporter justement à cause de ces dimensions-là ?
Oui, pour diverses raisons. En fait, les dimensions, l'exposition, vu les toiles de Rosa Bonheur, c'est vrai que nous avons obligé à beaucoup de sacrifices, mais en plus, l'œuvre est très fragile et très, très, très grande, quoi. C'est vrai, donc c'était très, très compliqué. Donc, on a préféré montrer plein de dessins préparatoires, la version de Londres, qui est très belle, et l'esquisse inédite, restaurée spécialement, qui montre comment l'artiste travaillait et qui donne une idée aussi du format.
Je me demande ce que ça fait de voir un tel tableau de cette grandeur-là en vrai, d'autant en fait que le mouvement des chevaux, vous avez insisté là-dessus, Leïla Jarboué, c'est vraiment un mouvement exalté, en fait. On a l'impression que c'est vraiment de la vitalité pure qu'elle a essayé de représenter.
Oui, et puis c'est la vitalité. Et en plus, le mouvement, c'était quand même encore quelque chose. Le mouvement des chevaux était assez difficile à rendre. Et elle réalise ce tableau plus de 20 ans avant la naissance des chronophotographies. Ces photographies qui permettent de décomposer le mouvement des chevaux. Donc elle était assez en avance parce qu'elle observait justement les chevaux. Mais ce tableau, en fait, est en train d'être relu par des spécialistes comme Valérie Bienvenu, qui écrit dans le catalogue, des spécialistes de chevaux, et qui montre comme c'est un tableau intéressant par rapport à la représentation du langage des chevaux, et qui explique, en fait, qu'au cœur du tableau, il y a un percheron qui nous interpelle.
Oui, encore un regard, d'ailleurs.
Voilà, un regard de souffrance. Et elle analyse ce tableau comme un exemple de toutes les dominations et les rapports que Rosa Bonheur rejette en fait entre humains et animaux. Et il y a un couple à la gauche du tableau, un homme qui tient un cheval rouant, et là qui est un couple un peu qui est le symbole d'une harmonie que Rosa Bonheur aimerait pouvoir être l'harmonie modèle. Every day in the furious jungle, steps falling loud and days going by. Seem to understand, oh no, they don't seem to know. I see the queens wearing crowns and cloaks, oh, waving their scepters, wooden on me to go. When you tell me about your secret kingdom, living around you, all of that seems to blur.
Rosa Bonheur vivait véritablement en compagnie et même dans la familiarité des animaux les plus sauvages. Elle s'était aménagée un jardin zoologique personnel. On ne se rend plus assez compte aujourd'hui de l'intérêt que présentent les dessins et les croquis qu'elle a fait des lions. Nous avons la photographie et le cinéma. Mais au XIXe siècle, Rosa Bonheur est un des seuls artistes à approcher les fauves et à en donner des images qui ne soient pas fantaisistes.
Ces animaux étaient empaillés après usage.
Presque. On dit que la plupart des animaux qui sont là étaient ceux justement qu'elle avait utilisés pour ses peintures, ce qui est un peu macabre peut-être, mais ce qui est quand même d'un autre côté assez émouvant d'avoir une continuation autour d'elle.
Ces animaux ont été mes modèles, mais aussi mes amis. Ils font partie des êtres qui me sont chers.
France Culture, sans oser le demander. Géraldine Mosna-Savoie.
C'était encore un extrait, une gloire du 19e siècle, Mademoiselle Rosa Bonheur, ce documentaire datant du 16 octobre 1980, diffusé sur TF1 et réalisé par Aline Tagvorian. C'est l'occasion pour nous, Leïla Jarboué, de passer à d'autres types de tableaux de Rosa Bonheur. On l'a entendu hein, dans ce documentaire, Rosa Bonheur vivait en fait cohabitait avec les animaux, des fauves, des chevreuils, des moutons, des perroquets, des chevaux, des chats, des chiens, des singes. Il n'y avait plus de limite entre le sauvage et le domestique, et c'est donc l'occasion, comme je disais, de passer à ce type de tableau, à ces portraits d'animaux qui n'ont rien à voir d'une certaine manière avec les grands tableaux dont on a parlé, qui sont beaucoup plus petits et qui sont presque plus à portée de main, qui instaurent véritablement une relation entre un animal. Alors on va pouvoir parler de plusieurs tableaux, ça va être un chien ou un chat ou un renard, entre donc un animal et le spectateur.
Oui, effectivement, Rosa Bonheur est vraiment une portraitiste des animaux. Elle leur accorde des portraits en pied, hein, vraiment, qui sont parfois d'ailleurs de grand format. Le portrait de Barbaro, il fait plus d'1m30. C'est vraiment un chien à taille réelle.
Donc, je précise juste que donc Barbaro après la chasse, donc c'est un tableau de 1858 à peu près, qui représente donc un chien qui fait quand même peine à voir, il faut le dire.
Oui, c'est un chien de chasse qui est attaché très court. Donc on voit son clou, sa chaîne, et il est contre le mur, il ne peut pas se baisser pour atteindre son os. Il y a un seau derrière lui avec une brosse sale, enfin, on pense hein, sûrement il vient d'être nettoyé après la chasse, donc c'est pour ça qu'il a été attaché aussi. Et il a un regard assez poignant, elle renverse un peu la représentation habituelle du chien de chasse, parce que le chien de chasse, surtout, enfin voilà, ce beau chien, qui est apparemment un griffon, qui a disparu, hein, qui est, enfin, me disait Léa Rebsamen, justement, la vétérinaire qui a travaillé sur la.
C'est une race qu'elle représente qui n'existe plus.
Qui n'existe plus aujourd'hui. Mais donc, les chiens de chasse, c'est plutôt des chiens conquérants, voilà, qui sont représentés.
Qui ont le poil luisant.
Voilà, et qu'on voit plutôt en position de dominant. Donc là, c'est l'inverse, il devient la proie de l'humain. Qu'on imagine hors champ. Mais en même temps, il n'y a pas de sentimentalisme dans le tableau. L'artiste est assez, encore une fois, assez objective, mais l'émotion passe par la manière si juste avec laquelle elle transcrit l'expression du regard de l'animal. Et alors, pour préparer le tableau, elle a laissé le chien bouger, en fait. Elle n'a pas attaché un chien comme ça. On le voit avec une étude qui est présentée dans l'exposition à côté du tableau, où on voit qu'elle a observé le chien sous toutes ses facettes. Elle s'est imprégnée un peu de cette présence du chien pour peu à peu poser les yeux sur sa tête avec une grande méticulosité, encore une fois.
Ce qui est frappant, vous employez ce terme de méticulosité.
Oui, je vois.
C'est vrai qu'on est frappé par la précision. Et d'ailleurs, on l'a entendu hein, dans le documentaire, il est question de cinéma, de photographie. Parfois, c'est troublant. Il y a une telle précision qu'on a presque l'impression qu'on va seulement dire bêtement, on dirait une photo. Parce que là, par exemple, les poils, on parlait de la terre tout à l'heure pour l'abourrage nivernais, mais là, les poils, on a l'impression qu'on pourrait presque les toucher.
Oui, alors le rapport de Rosa Bonheur à la photographie reste à être étudié et à être creusé.
Encore un sujet à explorer.
Voilà, parce qu'il y a énormément de photographies qui ont été retrouvées au château aussi, d'animaux de toutes sortes, classés. Enfin, voilà, donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Mais Rosa Bonheur pensait qu'il fallait faire confiance à l'œil et non pas à la photo. Donc si elle utilisait la photo, c'était plutôt pour des vérifications ou des retouches. Mais pour elle, l'important, c'était le dessin. C'était vraiment la base, le dessin. Parce que justement, le dessin ne fiche pas. Et c'est un travail vraiment dans le temps, en fait.
Et puis, on a l'impression qu'il y a une sorte d'adéquation aussi entre la technique choisie et le sujet. C'est-à-dire, est-ce qu'elle changeait de technique en fonction, justement, des sujets ? Donc là, par exemple, pour Barbaro, après la chasse, il y a quand même cette expression de tristesse. Il s'agit d'un chien de chasse donc qui est dans un rôle non pas de dominant, mais vraiment d'abattement. On peut aussi parler quand même de son tableau le chat sauvage, qui date de 1850, où là, le chat est allongé, il est très digne, en même temps, il a l'air de profiter du moment. Et là, pour le coup, les poils sont plus touffus. La précision, on a l'impression qu'il est fondu dans l'herbe autour de lui. Est-ce qu'il y a une adéquation comme ça entre ces techniques de peinture et le sujet et l'expression choisie ?
Oui, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a vraiment une adéquation, parce qu'en regardant le chat de près, quand il a été déballé pour être installé à Orsay...
C'est vrai que vous l'avez vu de près. Alors
Oui, mais les visiteurs aussi le verront de près. Avec la restauratrice, on a vu que la tête, elle était vraiment peinte presque en transparence. Il y a très très peu de matière, en fait. Et elle a réussi à peindre les petites moustaches, enfin vraiment avec une très très grande délicatesse. Alors qu'au contraire, d'autres tableaux, par exemple le roi de la forêt, quand on en parlera, le pelage est au contraire vraiment en matière. Donc elle s'adapte effectivement à l'animal. Et en même temps, elle n'a pas trop peint de chat, hein, alors qu'elle en avait. Elle avait un chat qui s'appelait Farino notamment. Parce que voilà, c'était un animal...
Peut-être trop banal ?
Oui, peut-être pas assez puissant pour elle. Donc là, c'est un chat sauvage, mais qu'on appelle aussi chat forestier. D'ailleurs, ça lui va très bien, chat forestier, parce que là, elle peint vraiment la symbiose entre le chat et son sol.
C'est vrai qu'il est fondu dans le sol en mousse.
C'est ça, il est complètement... Le pelage, la fourrure se mêle à cette mousse autour de lui.
Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que là, ce chat ne nous regarde pas. On a véritablement on voit très bien son œil, comme tous les animaux qu'elle peint. On voit très bien ses yeux, mais là, on ne voit qu'un œil. Et le chat est presque dédaigneux. En cela, peut-être est-il sauvage, mais c'est un des rares animaux qui ne regarde pas le spectateur.
Oui, elle réussit à traduire vraiment la fugacité d'un instant, en fait. Le chat qui s'étire un peu, cette tête qui se lève un peu. Donc c'est presque rien, le sujet. Mais elle réussit vraiment à transcrire l'attitude. Parce que pour elle, la justesse de sa représentation des animaux passe par le regard, mais aussi par l'attitude. Et d'ailleurs, dans l'exposition, par exemple, il y a une petite aquarelle de Fan, inédite, qui est très très belle. Et le Fan est de dos, en fait. Donc il n'y a pas de regard, mais rien que la manière... Là encore, il y a une adéquation entre la technique et le sujet. Donc là, pour le petit fond, tout délicat, tout fragile, elle a choisi l'aquarelle. Et on voit cette petite vie juste avec cette représentation de dos de l'animal, avec une oreille aussi très, très bien représentée.
Alors là, on va assez vite sur un certain nombre de portraits d'animaux, et il y en a un autre dont j'aimerais parler parce que j'ai ouvert l'émission avec ce portrait, c'est le Toutou le bien-aimé, donc un portrait qui date de 1885. Alors ce tableau, il est quand même assez surprenant parce qu'il est presque kitsch. Quand on voit donc, je suis très mauvaise en race de chien, mais on dirait en fait un caniche de vieille dame avec un petit grelot autour du cou. Il est sur un canapé en velours turquoise. Et puis finalement, derrière ce côté un petit peu kitsch, une fois passé cette impression-là, on a très vite presque de l'empathie en fait. Pour ce genre, on fait presque un peu de peine. Il y a quand même quelque chose, beaucoup d'expression de l'ordre quand même de soit de la vitalité un peu puissante, soit de l'abattement.
Alors oui, alors ce que je trouve assez rigolo avec ce tableau, parce que vous en parlez et qu'on vient de parler de Barbaro, c'est que là encore, elle adapte vraiment la technique et là le format aussi au sujet. Et d'ailleurs, dans l'exposition, on joue beaucoup sur les confrontations de format, parce que c'est assez drôle, comme le chat sauvage d'ailleurs qui est présenté à côté d'un lion qui est presque l'opposé, de ce chat tranquille. On a le lion rugissant. Là, il y a le petit chien dans un format, un minuscule tableau, 24x18 cm, avec un cadre.
Donc c'est un petit bijou, quoi.
Voilà, c'est ça. Il y a un côté petit bijou. Et en même temps, ce qui est assez drôle, c'est que Rosa Bonheur, elle peint ce qu'elle voit avec une grande simplicité. Elle est vraiment dans l'immanence. Mais en même temps, elle a une grande culture artistique. Et là, c'est aussi un peu un clin d'œil à la tradition du portrait aristocratique et même du portrait de chien. d'aristocrates. Donc il y a des petits chiens qui tiennent la chaussure de leur maîtresse, qui sont aussi très fortement érotisés dans la peinture du XVIIIe siècle ou du début XIXe. Et là, chez Rosa Bonheur, il n'y a pas ça, en fait. Il reste le petit pouf en velours bleu, mais le chien, finalement, n'a pas d'accessoire. Il a son petit grelot, mais il pose lui-même. Il n'y a pas de trace d'un instrument humain.
Donc c'est presque un pied de nez, en fait, à toute cette tradition qui instrumentalise les animaux, et au contraire, en faisant véritablement un portrait, elle leur donne un visage et une personne.
Moi, je pense, oui, que justement, là, ce chien n'est pas un jouet, c'est un ami, c'est... pour Rosa Bonheur. Et d'ailleurs, elle pose pour la postérité dans les portraits que Anna Klumke et Elie Zedel, elle pose avec un petit chien sur les genoux, un de ses chiens, enfin, avec plusieurs. D'ailleurs, elle adorait les Yorkshire. Elle disait que c'est vraiment ses amis, Daisy, Charlie. Enfin, et c'est un peu aussi un clin d'œil à la tradition des femmes de l'aristocratie avec leurs belles robes en taffetas qui ont leur petit chien sur les genoux. Bah, elle pose en travailleuse, en femme qui a eu la Légion d'honneur à la sueur de son front et de son poignet.
C'est la première femme à l'avoir eue, il faut le dire.
Voilà, elle pose avec ses cheveux courts, avec ses costumes austères. Mais avec le petit chien qui est un peu, elle renverse un peu. Donc elle est l'aristocrate, mais l'aristocrate de la peinture.
Est-ce que c'était une volonté véritablement de sa part, Leïla Jarboué, à Rosa Bonheur de renverser en fait ? Est-ce qu'il y avait une part quand même de une philosophie qu'elle a voulu faire transparaître, exposer à travers ses tableaux ? Ou c'est seulement en fait quelque chose que nous on voit à l'œuvre dans ces tableaux, mais qu'il a dépassé.
Je pense que s'il y a une philosophie qu'elle a voulu mettre à l'œuvre dans ces tableaux, c'est celle selon laquelle les animaux ont une âme. Elle en parle, elle dit qu'elle est influencée par les écrits de Lamennais, notamment. Et voilà, donc pour elle, les animaux et plus généralement la nature, il y a un côté un peu panthéiste. Puisque quand elle se promène dans la forêt, voilà, elle parle du côté spirituel, en fait, des hautes futaies. Enfin, elle a l'impression d'être dans une cathédrale à ciel ouvert. Donc, elle a voulu transcrire un peu cette âme du vivant, en fait, dans ses tableaux.
Ce qui fait aujourd'hui qu'elle est effectivement re-regardée, qu'on re-regarde ses tableaux parce qu'elle s'inscrit dans cette mouvance qui émerge en ce moment sur une nouvelle approche du vivant. C'est-à-dire, il y a véritablement, quand on regarde en fait ces portraits animaliers, il y a véritablement une égalité qui se fait à travers le regard entre l'animal qu'on regarde et le spectateur que nous sommes. Et cette égalité-là, ça fait presque une continuité en fait entre les espèces qu'on trouve au cœur même de notre pensée actuelle sur le vivant.
Oui, effectivement, la spécificité peut-être de l'art animalier de Rosa Bonheur, c'est que c'est vraiment un art qui est centré sur la relation, qui tisse vraiment une relation. Alors il y a la relation dans le tableau entre l'animal et son environnement, son sol dans lequel il est ancré, son biotope, on a envie de dire, mais aussi la relation qui se crée entre les animaux entre eux, entre les humains et les animaux dans ces tableaux. Elle réfléchit beaucoup aux relations interespèces dans les tableaux en les représentant de différentes manières, allant jusqu'à l'harmonie dans ces tableaux de Sioux Lakota, par exemple, où là, les hommes et leurs montures forment vraiment un couple qui est l'opposé de celui formé par les maquignons et les percherons dans le marché aux chevaux. Et aussi, enfin, la relation entre le tableau et le spectateur-regardeur qui, au fait, est confronté vraiment par la taille des tableaux, souvent aux tableaux à taille réelle de l'animal, et par le regard. Et ça, on le voit par exemple dans l'affiche, dans le tableau qui fait l'affiche de l'exposition, Le roi de la forêt. Elle reprend cette tradition de la peinture un peu, enfin, de la peinture de chasse, qui avait beaucoup de succès au Royaume-Uni, mais vraiment pour créer une confrontation directe, qui est très rare finalement dans la représentation des cerfs. Quand on voit les tableaux de Courbet ou bien les tableaux d'Edwin Lancer, c'est très très différent. L'animal regarde au loin, ou il combat un autre animal. Là, il y a un animal avec son environnement qui nous regarde et elle immortalise en quelque sorte dans sa peinture cette fugacité de la rencontre entre l'animal et l'humain.
A place called Warbonnet Gorge.
Warbonnet Gorge. Well, well, think of that now. Well, I'm taking you to a place called the Station House.
What for? It's my medal. I'm Buffalo Bill Cody.
And I'm Jenny Lind. Now, will you take a walk with me, or must I sing your lullaby with me nightstick?
I am Buffalo Bill Cody.
You know, if I was pretending to be someone, I wouldn't be that faker. I am, you are, if you you're saying so.
I guess the laugh's on me, Mr. Buffalo. Here's your medal.
Thanks. How about the dollar?
Rosa est une grande amie de Buffalo Bill, en fait, qui est un grand succès contre tout en France, avec l'exposition de Western, les Indiens. Peut-être les sens d'espace, peut-être le grand ciel, comme les cinémas.
On vient d'entendre un extrait encore de ce documentaire de Aline Taghverian, donc sur Rosa Bonheur, et on a entendu quand même cette rencontre inattendue entre Buffalo Bill et Rosa Bonheur. Ça, c'est une chose que j'ai découverte. Rosa Bonheur, là, on l'a vu, était associée à des paysages très français. On a presque parlé de patriotisme, Leila Jarboué. Et puis, Rosa Bonheur a fait aussi des tableaux de Buffalo Bill. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, en fait, cette rencontre entre Rosa Bonheur et le Grand Ouest américain ?
Oui, alors juste par rapport quand même au tableau français, elle a quand même une petite période aussi écossaise, anglaise.
Ah, hein, oui.
Elle a beaucoup peint les brumes et les bruyères.
Donc des
de
paysages
l'Écosse.
Autres que
français. Oui,
est-ce
qu'il a été d'ailleurs reproché en France parce qu'on a trouvé que justement elle devenait trop anglaise. Enfin, pas anglaise, britannique.
Britannique.
Oui, donc elle avait déjà un tropisme anglo-saxon quand même assez fort. Et alors les États-Unis pour elle c'était vraiment le pays de la liberté et notamment le pays de l'émancipation des femmes. Elle admirait beaucoup, enfin, elle pensait que l'éducation là-bas était quand même beaucoup plus libre pour les femmes. Et donc, c'est ce qu'elle appréciait le plus. Alors, le contexte de sa rencontre avec Buffalo Bill est un contexte, en fait, où elle était... elle était, comment dire, dévastée par la perte de son amie et compagne de toujours, Nathalie Mikas, qui meurt en 1889. Et peu de temps après, en fait, il y a une exposition universelle qui se produit d'abord à Neuilly. Dans le cadre de l'exposition universelle, la troupe de Buffalo Bill, donc, qui vient avec de nombreux Indiens Sioux Lakota, autochtones d'Amérique Sioux Lakota, et de nombreux animaux que Rosa Bonheur n'avait jamais vus, des bisons, des mustangs, et donc ça renouvelle un peu son art, quoi. Du coup, elle découvre, elle qui voulait toujours découvrir de nouvelles espèces et races animales, voilà, ça donne une nouvelle vitalité à son art. Alors, elle s'intéressait quand même déjà depuis longtemps à l'Ouest américain, parce qu'elle a copié au fait des livres de George Catlin, un peintre états-unien qui a peint beaucoup les autochtones d'Amérique, et qui était venu à Paris en 1845, mais on ne sait pas si elle a vu le spectacle parce qu'elle était jeune. Enfin, voilà.
Mais elle est allée aux États-Unis, elle ou...
Non, elle n'a jamais été aux États-Unis.
C'est ça qui est frappant, parce que quand on voit ce portrait de Buffalo Bill, qui en fait est intitulé d'ailleurs par du vrai nom, hein, c'est William F. Cody, et qui date de 1889, on a l'impression que Rosa Bonheur est dans un grand espace américain en train de peindre, qu'elle a posé son tableau au milieu de ce grand espace et qu'elle a peint Buffalo. Bill.
Oui, alors elle l'a quand même peint, vraiment, puisqu'elle
l'a vraiment vu.
Elle l'a rencontré, oui. Il a posé pour elle, et elle a même pu d'ailleurs étudier de près la troupe d'acteurs Sioux Lakota qui était avec lui. Elle a pu copier leurs costumes, observer les animaux de près, donc elle a pu travailler comme elle le faisait, de manière précise, documentée. Mais en même temps, c'est des découvertes qui ont été faites au Château Rosa Bonheur récemment. Elle a utilisé des modèles masculins, en fait. Et c'est le même modèle qui a posé... donc ça, c'est Michel Ponce, l'archiviste du château, qui a trouvé ça. Le même modèle a posé pour des tableaux écossais, donc pour faire une figure de berger écossais, et pour des tableaux représentant des Sioux Lakota.
C'est un modèle polyvalent, finalement.
Voilà.
Oui. Et juste avant qu'on écoute cet extrait, Leila Jarboué, vous parliez de ce tableau, donc le roi de la forêt, qui date de 1878, qui représente un cerf dans la forêt. C'est vraiment la figure de l'indépendance. C'est intéressant parce que Rosa Bonheur, on insiste beaucoup, vous l'avez dit dès le début de l'émission, sur elle, sur sa personnalité, sur le fait que ce soit une icône féministe, anticonformiste, d'indépendance, un petit peu comme ce cerf, qui d'ailleurs en fait est l'image, le tableau que vous avez choisi pour cette exposition. Est-ce que Rosa Bonheur a pâti justement de cette indépendance et a fait que, embrassant l'Ouest américain en fin de carrière, les Français se sont aussi détournés d'elle?
Je pense que les Françaises se sont détournées d'elle les années, enfin à partir du moment en fait où elle s'installe à Thomery, à Bithomery, en lisière de forêt de Fontainebleau. Elle a voulu s'isoler en fait pour pouvoir travailler.
Elle-même s'est isolée,
oui,
c'est ça ?
Oui, parce qu'elle voulait pas être trop dérangée justement dans son quotidien pour vraiment se consacrer à la peinture, quoi, qui était sa vie. Et à partir de ce moment-là aussi, elle vend beaucoup plus aux particuliers par le biais de ses marchands, donc Gambart,
donc Gambart.
Tedesco, voilà. Et donc elle n'expose plus au salon en fait. Donc elle fait le choix du privé et elle fait le choix de s'affranchir du système jury, salon, institution. Et donc c'est aussi ça son indépendance finalement. C'est assez moderne ce choix du marché de l'art. Donc voilà, donc du coup elle était hier célèbre, comme disait un critique. Et d'ailleurs, le roi de la forêt, c'est assez emblématique. C'est la première fois qu'il est exposé en France, enfin, depuis avec Bordeaux, alors que c'est un des plus grands succès de Rosa Bonheur de son vivant. En 1878, il est exposé à Anvers, il fait le tour de l'Europe, il fait vraiment partie des grands chefs-d'œuvre de l'artiste reproduits en gravure, popularisés. Eh ben, il n'avait jamais été exposé en France. Donc, on est très heureux qu'une collection particulière aux États-Unis ait accepté
de prêter
ce tableau pour que le public puisse se confronter à ces dimensions gigantesques.
Impressionnantes. Une dernière question, Leïla Jarboué. Quel est votre tableau préféré de Rosa Bonheur? Est-ce qu'on en a parlé aujourd'hui?
C'est un peu difficile parce que ce que j'aime justement chez Rosa Bonheur, c'est sa diversité. La diversité des techniques, des formats et peut-être aussi la beauté des fusains et des pastels qui est aussi une des révélations de l'exposition. Voilà, plusieurs sont montrés où elle réussit à transcrire l'atmosphère poétique et magique de la forêt, sa manière de faire surgir le surnaturel du naturel.
Merci beaucoup Leïla Jarboué. De vous, alors on peut lire sous votre direction et celle de Sandra Buratti-Hassan le catalogue de l'exposition Rosa Bonheur, donc c'est une coédition Flammarion Musée d'Orsay. Je rappelle que cette exposition débute aujourd'hui au Musée d'Orsay et c'est jusqu'au 15 janvier. Et puis aussi sous votre direction et toujours celle de Sandra Buratti-Hassan, Rosa Bonheur, le regard des animaux aux éditions des Falaises. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Le dos couvert d'écailles, on sent la paille dans la faille, et quand on ouvre la porte, une armée de cloportes vous repousse en criant, ici pas de serpent. Animal, on est mal. De cornes placées sur le devant du nez, on s'abaisse, on s'affaisse, on a la queue qui frise, on a la peau épaisse, on a la peau grise. Et quand on veut sortir avec une demoiselle, on l'invite à dîner, quand elle vous voit, que dit-elle? Il ne vous manque qu'une bosse, va des rétro-rhinocéros.
Merci à l'équipe de Sans Oser le Demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand, Lord à l'Est, réalisation Louise André, prise de son Jacques Hubert. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, bien sûr, aussi sur le site de France Culture, à la page de Sans Oser le Demander ou encore sur l'application Radio France.
Se retrouver loin de l'heure.